Aujourd'hui, je vais vous lire le chant 4, Savitri, livre 10, chant 4, le demi-jour rêveur du réel terrestre. Puis vint une pente qui lentement s'enfonçait vers le bas. Elle glissait vers une descente grise trébuchante. Le cœur vague de la merveille de l'idéal était perdu. Le cœur vague de la merveille de l'idéal était perdu. L'étonnante profusion de ses brillants rêves, délicats et les vagues sublimités semi-enluminées, Savitri les avait quittés. La pensée tombée à des niveaux plus bas, dure et dense, passionnée de quelque réalité crue. Les premières lueurs flottaient encore, mais ses teintes avaient changé et enveloppé lourdement un rêve moins enchanteur. Elles se sont posées dans l'air par masses fanées. Ses couleurs symboliques s'unissaient à des rouges plus ternes et ressemblaient presque à une brume de jour blafard. Une tension pénible et maléfique assaillait son cœur. Ses sens devenaient lourds d'un poids dangereux et des sons plus tristes et plus forts venaient à ses oreilles. Et par de brusques percées dans les brumes chatoyantes, sa vision saisissait en haut des plaines battues et des montagnes nuageuses et de larges fleuves cuivrés et des cités grimpées avec des minarets et des tours vers un ciel vain et immuable. De longs quais, des rives et des ports aux voiles blanches provoquaient sa vision un moment, puis disparaissaient. Au milieu d'eux peinait une multitude au travail, par groupes toujours changeants et périssables, tel un cinéma échoué aux formes d'ombres éclairées, enveloppées dans le manteau gris d'un rêve. Imaginant des sens dans la lourde dérive de la vie, il se fiait à un environnement incertain et attendait la mort pour changer la scène de leur esprit. Un vacarme sauvage de travaux et les pas lourds d'une vie cuirassée et le bourdonnement monotone des pensées et des actes toujours pareil, tel le vrombissement abrutissant et répété d'une grande machine brutale accablée son âme. Une grise rumeur mécontente comme le fantôme gémissant d'une haute mer inquiète. Une énorme voix cyclopéenne barbare, un cri de bâtisseur de Babel grimpant jusqu'aux cieux, un battement de moteur et un martèlement d'outils apportaient un arrière-fond de labeur en peine. Comme de pâles éclairs déchirent un ciel torturé, haut, par-dessus la tête, une traînée du nuage fusée, chassant comme une fumée jetée d'un entonnoir rouge les créations forcées d'un mental ignorant. Flottant, elle voyait comme des fragments d'images volés, revenant des pensées humaines et des espoirs trompés, des formes de la nature et des arts de l'homme, des philosophies et des disciplines et des lois, et l'esprit mort de vieille société, construction du titan et du ver. Comme des restants perdus d'une lumière oubliée, s'en venait devant son mental sur des ailes traînant des révélations éteintes et des paroles libératrices, vidés de leur mission et de leur force sauveuse, messages des dieux évangélistes, voix des prophètes, écritures saintes de croyances disparues. Chacun son heure prétendue éternelle, passée. Idéaux, systèmes, sciences, poèmes, arts, infatiguement périssait là, puis revenait encore, recherché sans trêve par quelque force créatrice. Mais tous étaient des rêves traversant une vastitude vide. Des voix d'ascètes appelées, des sages solitaires sur des sommets de montagne ou sur les rives d'un fleuve, ou du cœur abandonné des clairières d'une forêt, cherchant le repos des cieux ou la paix de l'esprit hors du monde, ou en des corps immobiles comme des statues fixées dans la cessation extatique de leurs pensées inlassables, des âmes endormies méditaient, et ceci aussi était un rêve. Toute chose créée par le passé détruite était là. Leurs formes perdues et oubliées qui jadis avaient vécu, et tous les amours présents comme révélés de nouveau, et tous les espoirs que l'avenir apporte avaient déjà échoué. Saisis et perdus en vains efforts, répétés infructueusement âge après âge, inlassablement tous revenaient insistant encore pour la joie dans le tourment de la poursuite et la joie de lutter et de gagner et de perdre et la joie de créer et de garder et la joie de tuer. Les cycles roulaient, passaient et revenaient encore, apportant les mêmes efforts et les mêmes fins stérile, des formes toujours neuves et toujours vieilles, de longues révolutions horribles du monde. Une fois de plus s'élevait la grande voix destructrice, à travers l'infructueux labeur des mondes, l'énorme démenti de sa force qui défait tout, poursuivez la marche ignorante du temps douloureux. Regarde bien les images de ce royaume symbolique, les contours solides de son rêve créateur qui inspire les grandes tâches concrètes de la terre. Dans sa parabole mouvante de la vie humaine, tu peux suivre la piste du dénouement qu'apporte la nature au péché d'être et à l'erreur des choses et au désir qui contraint de vivre et l'incurable maladie d'espoir de l'homme. Dans une immuable hiérarchie ordonnée où la nature ne change pas, l'homme ne peut pas changer. Toujours il obéit à la loi fixe des mutations de la nature. dans une version nouvelle de son histoire, souvent dite, dans les cycles tournant à jamais, tourne la race. Son mental est parqué en des frontières cerclées, car le mental est l'homme au-delà du mental, il ne peut pas voler. S'il pouvait quitter ses limites, il serait sauf. Il voit, mais il ne peut pas monter à ses cieux plus nobles. Même ailé, il retombe à son sol natal. Il est captif dans le filet de son mental et bat des ailes d'âme contre les murs de la vie. En vain son cœur lève-t-il sa prière d'aspiration, peuplant de dieux brillants le vide sans forme. Alors, déçu, il se tourne vers le vide et dans son heureux rien demande la délivrance. Le calme nirvana de son rêve de moi. Le verbe fini dans le silence, le nom dans le néant. Isolé, parmi les multitudes mortelles, il fait appel au Dieu incommunicable pour être l'amant de son âme solitaire, où jette son esprit dans l'embrasse vide, où il trouve sa propre copie dans le ton impartial. Il transporte sa propre volonté dans l'immobile, attribue à l'éternel le courroux et l'amour, et à l'ineffable prête un millier de noms. N'espère point faire descendre Dieu dans sa vie. Comment apporterais-tu l'Éternel ici? Il n'y a pas de maison pour lui dans le temps pressé en vain. Tu cherches un but dans le monde de la matière. Il n'y a pas de but ici, seulement une volonté d'être. Tout marche lié par la nature à jamais pareil. Regarde ces formes qui restent. Un moment épasse, ces vies qui ont soif et luttent, puis ne sont plus, ces structures qui n'ont pas de vérité durable, les croyances sauveuses qui ne peuvent pas se sauver elles-mêmes, mais périssent dans les mains étranglantes des ans. Rejetées par la pensée de l'homme, reconnues fausses, par le temps, les philosophies qui mettent à nu tous les problèmes sans que rien jamais soit résolu depuis le début de la terre, et les sciences omnipotentes en vain qui apprennent aux hommes de quoi sont faits les soleils, transforment toutes les formes pour servir leurs besoins extérieurs, chevauchent le ciel et naviguent sous les mers, mais n'apprennent pas ce qu'ils sont, ni pourquoi ils sont venus. Ces régimes politiques, architecture du cerveau de l'homme, faites de briques du mal et du bien, qui emmurent l'esprit de l'homme, et des maisons fissurées, palais et prisons, à la fois, qui pourrissent pendant qu'elles règnent et s'effritent avant de s'écrouler. Ces révolutions, démons ou dieux ivres, convulsionnant le corps blessé de l'humanité, seulement pour peindre des couleurs nouvelles, une vieille face, ces guerres, ces carnages triomphants, qui ruine, devenue folle, l'œuvre des siècles, évanouie en une heure, le sang du vaincu et la couronne du victorieux que les hommes à naître doivent payer de leur douleur. La face divine du héros sur un corps de satyre, la grandeur du démon mêlée à celle du demi-dieu. La gloire et la bestialité et la honte, pourquoi tout cela, ce labeur et ce fracas, ces joies passagères, cette mer de pleurs sans fin, cette aspiration et l'espoir et le cri, la bataille et la victoire et la chute, ce voyage sans but qui jamais ne cesse, ce labeur éveillé, ce sommeil incohérent, chansons, clameurs et pleurs, sagesse et paroles futiles, le rire des hommes, l'ironie des dieux, où conduit la marche, où vint le pèlerinage, qui tient la carte de la route où a tracé chaque étape, ou bien, mû par lui-même, le monde marche son propre chemin, où rien n'est là, sauf un mental qui rêve. Un monde est un mythe qui fait semblant de devenir vrai. Une légende racontée à lui-même par le mental conscient. Imaginez jouer sur un fond de matière fine sur laquelle il se tient dans une vastitude insubstantielle. Le mental est l'auteur, le spectateur, l'acteur, la scène. Seul le mental est ce qu'il pense et vu. Si le mental est tout, renonce à l'espoir de la félicité. Si le mental est tout, renonce à l'espoir de la vérité. Car le mental ne peut jamais toucher le corps de la vérité. Et le mental jamais ne peut voir l'âme de Dieu. Il saisit seulement son ombre et n'entend pas son rire. Lorsqu'il se retourne de lui vers la vaine semblance des choses. Le mental est un tissu tramé d'ombre et de lumière, où le vrai et le faux ont cousu leurs parties mêlées. Ou bien le mental est le mariage d'une convenance de la nature. Entre la vérité et le mensonge, entre la joie et la douleur, cette paire en lutte, nul tribunal ne peut la séparer. Chaque pensée est une pièce d'or avec un brillant alliage, et l'erreur et la vérité sont l'avers et le revers. C'est l'impérial monnayage du cerveau, et de cette sorte est toute sa monnaie. Ne pense pas planter sur la terre la vérité vivante, ni faire du monde de la matière la demeure de Dieu. La vérité ne vient pas là, seulement la pensée de la vérité. Si Dieu n'est pas là, mais seulement le nom de Dieu. Si le moi existe, il est sans corps et sans naissance. Ce n'est personne et personne ne le possède. Sur quoi bâtirais-tu donc ton monde heureux? Rejette ta vie et ton mental, alors tu es le moi. Une omniprésence qui voit tout. Nu, seul. Si Dieu existe, il ne se soucie pas du monde. Il voit toutes choses d'un regard calme, indifférent. Il a condamné tous les cœurs au chagrin et au désir. Il a enchaîné toute la vie à ses implacables lois. Il ne répond pas à la voix ignorante de la prière. Éternel, tandis que les âges travaillent et peinent en dessous, insensible, intouché par rien de ce qu'il a créé, il voit tel de minuscules détails parmi les étoiles. L'agonie de l'animal est le destin de l'homme. Immensément sage, il dépasse ta pensée. Sa joie solitaire n'a pas besoin de ton amour. Sa vérité ne peut pas demeurer dans l'homme pensant. Si tu désires la vérité, alors immobilise ton mental à jamais, tué par l'invisible lumière muette. L'immortelle béatitude ne vit pas dans l'air humain. Comment le calme délice de la puissante mer garderait-il sa fragrance dans cet étroit vase fragile? Où logerait-il sa douce extase intacte dans ces cœurs qui peuvent être assaillis par le chagrin terrestre, et dans ces corps que l'insouciante mort peut tuer à volonté? Ne rêve point de changer le monde de Dieu, le monde que Dieu a conçu. Ne t'acharne pas à transformer sa loi éternelle. S'il existe des cieux dont les portes sont closes à la douleur, là va chercher la joie que tu ne peux pas trouver sur la terre. Ou va dans l'impérissable hémisphère où la loi est native et le délice est roi et l'esprit est l'immortel, base des choses. Choisis ton haut lieu, enfant de l'éternité. Si tu es esprit et la nature est ta robe, dépouille ton vêtement et sois ton moi nu, immuable dans sa vérité impérissable, seul à jamais dans le seul muet. Alors tourne-toi vers Dieu, laisse tout derrière pour lui, oubliant l'amour, oubliant Satyavan, annule-toi toi-même dans sa paix immobile, ô âme, noie-toi dans sa tranquille béatitude, car tu dois mourir à toi-même pour accéder à la hauteur de Dieu. Moi, la mort, je suis la porte de l'immortalité. Mais Savitri répondit au dieu sophiste. Encore appelleras-tu la lumière pour aveugler les yeux de la vérité et faire de la connaissance un piège pour les filets de l'ignorance, et le verbe une flèche pour tuer mon âme vivante? Offre, ô roi, tes faveurs aux esprits fatigués et aux cœurs qui ne supportent pas les blessures du temps. Laisse ceux qui étaient attachés au corps et au mental arracher ces chaînes et fuir dans le calme blanc, implorant refuge du jeu de Dieu. Sûrement, tes faveurs sont grandes, puisque tu es lui. Mais comment irais-je chercher le repos dans la paix sans fin qui abrite la force violente de la puissante mère? Sa vision tournée pour déchiffrer ce monde énigmatisé, sa volonté trempée dans le feu du soleil de la sagesse et le silence brûlant de son cœur d'amour. Le monde est un paradoxe spirituel inventé par un besoin dans l'invisible, une pauvre traduction pour l'essence des créatures, de cela qui à jamais dépasse l'idée et la parole, un symbole de ce qui jamais ne peut être symbolisé, un langage mal prononcé, mal épelé et pourtant vrai. Les forces du monde sont venues des hauteurs éternelles et ont plongé dans l'obscur abîme inconscient et se sont levées de là pour faire leur merveilleux travail. L'âme est une image du non manifesté. Le mental peine laborieusement pour penser l'impensable. La vie appelle l'immortel à naître. Le corps a incarné l'illimitable. Le monde n'est pas coupé de la vérité de Dieu. En vain tu as creusé le noir gouffre sans pont. En vain tu as construit un mur aveugle sans porte. L'âme de l'homme passe par toi pour aller au paradis. Le soleil des cieux force son chemin à travers la mort et la nuit. Sa lumière est visible aux confins de notre être. Mon mental est un flambeau allumé par le soleil éternel. Ma vie est un souffle inspiré par l'hôte éternel. Mon corps mortel est la maison de l'éternel. Déjà, le flambeau devient le rayon immortel. Déjà, la vie est la force de l'immortel. La maison devient une partie même du maître de la maison. Comment dis-tu que la vérité ne peut jamais éclairer le mental humain et la félicité ne peut jamais envahir le cœur des mortels, ni Dieu descendre dans le monde qu'il a fait? Si la création s'est levée dans le vide insensé, si la matière est née d'une force sans corps, si la vie a pu grimper dans l'arbre inconscient et la joie verte éclore en des feuilles d'émeraude et son rire de beauté s'épanouir dans la fleur, si des sens ont pu s'éveiller dans les fibres, les nerfs, et les cellules, et la pensée captée, la matière grise du cerveau, et l'âme dans sa cachette, regardée furtivement par la chair. Pourquoi la lumière sans nom ne sauterait-elle pas sur les hommes et des forces inconnues ? Ne surgirait-elle pas du sommeil de la nature. Même maintenant, des aperçus d'une vérité lumineuse comme les étoiles se lèvent dans la splendeur de l'ignorance d'un mental flâneur. Même maintenant, nous sentons le toucher de l'amant de l'immortel. Même maintenant, des aperçus d'une vérité lumineuse comme les étoiles se lèvent dans la splendeur de l'ignorance d'un mental flâneur. Même maintenant, nous sentons le toucher de l'amant immortel. Si la porte de la chambre est seulement un peu entrebâillée, qui donc empêcherait Dieu de se glisser dedans? Ou qui interdirait son baiser sur l'âme endormie? Déjà, Dieu est proche. La vérité, toute là. Parce que le corps obscur de l'athée ne le sait pas. Faut-il que le sage nie la lumière et le voyant son âme? Je ne suis pas enchaîné par la pensée, ni les sens, ni les formes. Je vis dans la gloire de l'infini. Je suis proche du sans nom et de l'inconnaissable. L'ineffable est maintenant le compagnon de ma maison, mais debout au bord lumineux de l'éternité, j'ai découvert que le monde était lui. J'ai rencontré l'esprit avec l'esprit, le moi avec le moi. Mais j'ai aimé aussi le corps de mon Dieu. Je l'ai poursuivi dans sa forme mortelle. Telle, une liberté solitaire ne peut satisfaire un cœur qui est devenu un avec chaque cœur. Je suis un représentant de l'aspiration du monde. La liberté de mon esprit, je la demande pour tous. Savitri, Sri Aurobindo, livre 10, chant 4, le demi-jour rêveur du réel terrestre. Je me permets juste de terminer cette dernière ligne comme un vœu pour tous les Auroviliens, pour l'Inde et pour le monde. La liberté de mon esprit, je la demande pour tous. C'est-à-dire la liberté de l'amant immortel. Merci Sri Aurobindo, merci douce mère Ganga Lakshmi.